Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue à Regards Croisés avec Arlette Farah
et Fulgence Blas.
Voilà, bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
Aujourd'hui, en ce début de semaine, écoute, dans la première partie de l'émission, on va recevoir Denis Martin Chabot qui va nous faire sa chronique queer. J'en parle un petit peu plus dans un instant. Et en deuxième demi-heure ?
Non, en deuxième demi-heure, j'ai quelques sujets. Je vais parler d'abord du lancement du mois de l'histoire des Noirs qui a eu lieu ce matin, d'une manière virtuelle, bien sûr.
Bien sûr.
J'ai assisté, c'était à 13h. Et puis ensuite, on va parler de foot, les secrets du contrat de Lionel Messi.
Oui, ok.
Tout le monde sait combien il touche maintenant, tout le monde est en colère. Et puis, bon, ben, on va parler du CHAM, qui est le championnat d'Afrique de football des nations.
D'accord.
Les demi-finales, voilà, on va parler de ça un peu plus tard, en deuxième partie d'émission.
Eh bien, pour l'instant, on va partir en musique.
Oui, avec qui ?
Tristan Savoie, qui nous chante « Plus rien, plus de nuit ».
C'est passé, c'est levé, oh, c'est chant nos larmes, c'est fini, bien fini, c'est l'idolâtrie du confinement, c'est le rêve des mourir tendrement, c'est la souterraine du cœur à foison. C'est plus dans la rivière qu'on se noie. Une vie sans pareil, c'est l'envie, le paradis. Pourrais-tu deviner la prairie? Non mais c'est le mal d'essayer. C'est l'idolâtrie des enfermements d'ignorance. Quand on regarde la terre et qu'on voit la ville, on ne sent plus rien, on ne sent plus la nuit. Mais pourquoi s'ennuyer dans la vie à midi? Un rêve s'est posé sur la vie. Sur la rive, ouais, ouais.
Alors ce soir, dans sa chronique queer, Denis Martin Chabot s'intéresse aux différents festivals qui doivent devenir virtuels en raison de la pandémie de Covid-19, bien évidemment. Donc on a vu ça avec les célébrations des fiertés. Et Denis Martin et d'autres organisations doivent aussi composer avec les défis du virtuel, et ce n'est pas toujours facile. C'est donc le cas du Festival de cinéma queer, Images et Nations, qui était cette fin d'année 2020, à sa 30e édition annuelle. L'organisation s'est démenée depuis le mois de mars, donc le moment où on a été enfermé, je vais dire, depuis le début de la pandémie, pour adapter le festival à cette réalité du virtuel. Donc, création d'une plateforme de visionnement en ligne, beaucoup de publicité, des tarifs très avantageux. Or, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Donc, il en parle avec Charlie Boudreau, qui est à la direction du festival. On l'écoute et on reparle avec Denis Martin tout de suite après.
C'était quelque chose que j'avais dans la tête depuis longtemps. Et dès qu'il y a eu des problèmes au mois de mars, moi, je me suis dit, là, on met tout en marche pour faire virtuel. On ne savait pas comment ça allait se passer du tout, mais je savais au moins qu'on allait être en partie virtuelle. Je pensais qu'on serait en salle aussi quand même. Mais c'était l'occasion pour moi d'un petit peu remodeler le modèle d'imagination et de rendre tous ces films-là plus accessibles en dehors de la ville. On a fait à travers la province, puis on a aussi développé un volet francophonie, c'est-à-dire d'aller chercher les films, les productions de pays francophones, c'est-à-dire pas juste la France, pas juste la Belgique, pas juste la Suisse, mais tous les autres pays africains, certains pays asiatiques qui ont comme langue de base le français.
Donc, si je comprends bien, ça a été l'occasion pour Imagination de tester un volet virtuel. Est-ce que financièrement, c'était aussi bon pour vous autres que ça l'était l'année d'avant?
Je pensais que les gens se diraient « Waouh, c'est l'occasion de voir des films LGBT ». Alors que la participation n'a vraiment pas été ce que je pensais qu'elle le serait. Et ça n'a pas été un grand succès financièrement ou le succès que j'aurais voulu que ça le soit au niveau de la participation.
Si tu avais à donner des conseils à d'autres organisations, pas nécessairement juste des organisations de films, mais qui doivent composer avec le virtuel, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit prendre en considération absolument quand on fait ce genre de à partir de ton expérience, évidemment, là?
Mais c'est un peu difficile à dire parce qu'on est dans, on est encore dans le moment du recul pour essayer d'examiner qu'est-ce qu'on a fait. C'est sûr qu'il faut changer nos approches parce que nous, on a fait une approche quand même sur plusieurs fronts au niveau de la promotion. On a essayé aussi d'avoir des genre des watch parties, quelque chose d'un peu plus vivant. C'est un mystère un petit peu parce que les gens ne vont pas autant à un événement virtuel. Et ça, je ne le comprends pas. Et l'exemple, c'est comme au TIFF, par exemple, qui est quand même le Toronto International Film Festival, qui est un énorme, énorme festival. Moi, j'allais à des événements chez eux en septembre, puis on était peut-être comme 12 puis 13 dans la salle. Et ça, c'est comme, c'est impensable. Donc, il y a quelque chose que je pense que personne n'a compris encore. Donc, les conseils, c'est d'essayer d'aller chercher le plus près de ce qu'on connaît de notre public. Au moins d'aller chercher notre public et de penser à tout ce qu'on peut, spécifiquement au lieu culturel où on est, de comment on peut essayer d'attirer un public d'allié, entre guillemets, c'est-à-dire que ce qu'on a beaucoup essayé de faire, nous autres, c'est de faire comprendre aux gens que c'est la première fois que vous pouvez vraiment facilement partager un film qui représente votre vie avec vos parents, vos amis, vos collègues. Et tout ça, c'est super facile de partager. On a même créé des structures de prix qui étaient moins chères, qui permettaient à genre trois différentes adresses de regarder des films ensemble.
Le festival a absolument lieu au mois de novembre. On devrait avoir terminé la vaccination pour septembre. Est-ce que tu es optimiste de pouvoir retourner en salle en novembre ou il faut prévoir les deux cette année?
Moi, je veux toujours qu'on ait les deux parce que je trouve que c'est une façon moderne de faire un festival. Et la pandémie nous a forcé à faire des choses plus rapidement de ce qu'on voulait faire, mais je pense qu'il y a eu du bon qui est l'accessibilité et j'y tiens absolument à ce concept-là. Donc oui, pour moi, c'est aussi, je m'ennuie tellement, c'était vraiment pas le fun de faire un festival seul devant nos ordinateurs. On s'est tout ennuyé du monde. On manquait le contact avec les gens, les conversations. Puis on s'entend quand même qu'un film sur l'écran, c'est un film, c'est une expérience extraordinaire. C'est fait pour être vu sur l'écran, pas sur une télévision ou un ordinateur. Donc, absolument qu'on va retourner en salle autant qu'on peut. Moi, je n'ai pas l'impression que ça va être autant cette année que peut-être l'année prochaine. On est vraiment beaucoup en période de discussion, de brainstorming, de réflexion. De qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on pourrait essayer pour essayer de modeler quelque chose qui rend l'expérience humaine. C'est ça qui est difficile à faire, de rendre une expérience virtuelle humaine.
Ça fait quand même un an que de tourner, c'est compliqué avec tout ce qu'on doit faire. Est-ce que tu as des craintes que la récolte, si je me permets de l'expression, de films soit plus difficile pour les deux prochaines années?
Absolument, complètement. Il y a beaucoup, c'est ce qu'on se disait, on va avoir un festival, mais qu'est-ce qu'on va présenter? Il va falloir être plus créatif au niveau de la programmation, ça c'est certain, parce qu'il y a très peu de films qui sont faits. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des films quand même en production en 19 qui ont eu la post-prod en 20, qui vont être disponibles en 21. Donc, il y a quand même des films, mais comme tu dis, c'est l'année suivante. Parce qu'il y a parce qu'un film, pour les gens qui ne savent pas, ça prend souvent jusqu'à 2 ans à terminer. Donc, il y a une possibilité encore pour cette année, mais le futur. Mais je pense que les gens vont trouver d'autres façons de raconter des histoires aussi, parce que un film, il y a plusieurs façons aussi de créer, de raconter des histoires. On peut y aller plus rapidement avec des séries web, par exemple, ou des façons plus rapides de tourner et de raconter. Ça n'a pas besoin d'être le modèle long-métrage. Ça peut aussi être un modèle long-métrage repensé. C'est un petit peu intéressant aussi ce qui peut s'en venir en termes de tout ça. Et c'est l'occasion aussi de pour nous, de mettre encore de l'avant le court-métrage, parce qu'il peut se faire des courts-métrages. Il faut respecter le court-métrage. Il n'y a pas juste le long-métrage qui existe et qui a de la valeur. les courts sont sublimes. Puis, d'ailleurs, on a commencé un festival de courts en décembre cette année, après Imagination, qui est un festival séparé, qu'on veut absolument continuer pendant l'année. Donc, nous, on veut avoir une présence constante. Une des choses aussi que j'aime pas beaucoup du modèle traditionnel de festival, c'est qu'on a des films 10 jours par année, puis après ça, il n'y a plus rien. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve une façon d'avoir accès à un cinéma différent, un cinéma plus poussé, à un cinéma créé par des personnes LGBT qui racontent des histoires LGBT plus authentiques. Puis c'est sûr qu'il y a des personnages queer un peu partout de plus en plus, mais ce n'est pas nécessairement des histoires qui viennent de nous. Donc, je pense qu'il faut trouver un moyen d'avoir accès à ça plus régulièrement. Et nous, on va continuer à présenter des courts-métrages, par exemple, tous les mois, à partir du mois de mars.
On vient d'entendre Mango Santamaria qui nous chantait What a Melon Man. Bonjour Denis Martin Chabot.
Salut.
Bonjour Denis Martin. Bonjour.
Alors,
je vais vous mettre en garde juste avant. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, on fait du télétravail beaucoup, hein.
Oui.
Alors aujourd'hui, pour une étrange raison, mon chien a décidé qu'il jappait à tout moment. Alors si vous l'entendez, ne vous effrayez pas.
D'accord.
Probablement, il y a quelqu'un qui passe dans la rue et que ça l'intrigue.
Ou peut-être qu'il nous répond tout simplement au micro parce qu'il a compris notre questionnement.
Alors, oui, peut-être mieux que moi d'ailleurs.
Denis Martin, on va parler avec toi puisqu'on vient d'entendre l'entrevue que tu as faite avec Charlie Boudreau. Donc, on va parler avec toi de ces événements virtuels qui ne fonctionnent pas toujours.
Oui. Ben, je pense que pendant la pandémie, au début de la pandémie, je peux dire que c'était nouveau le virtuel, et puis je pense qu'on s'attendait pas à ce que ça dure aussi longtemps. Et donc les gens acceptaient peut-être davantage les Zoom, les Teams, les Microsoft, etc. Mais là, ça va faire un an qu'on vit là-dedans. Oui. C'est un peu moins. Je sais pas pour toi, Arlette, ou pour toi, Fulgence. Moi, par bout, là, les Zooms et les réunions, là, j'en peux plus. Je fais du yoga le week-end par Zoom, puis là, j'arrive plus à voir la position qu'on monte. On a comme une fatigue. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui explique.
Ben, oui. Je sais pas, moi. Zoom, ça m'apporte. Bon, ça m'apportera jamais d'aller. Il y a des spectacles, comme des spectacles de théâtre, entre autres, des spectacles musicaux, où ça m'intéresse plus de les voir. En direct, j'ai hâte de pouvoir retourner en salle, même pour le cinéma. Mais je pensais quand même qu'au niveau du cinéma, les gens étaient plus prompts à y aller. Puis surtout, comme ça coûtait moins cher et qu'ils le voyaient de chez eux, ils n'avaient pas à se déplacer quand c'est le plein hiver, comme en ce moment.
Ouais.
Donc, que c'était une facilité, tu vois. J'ai été surprise d'apprendre.
C'est inquiétant parce que je pense à mes amis de Massimadi, qui est le festival de cinéma de haïtien, afro-caribéen, je devrais dire, de la diversité du LGBTQ. Alors, eux aussi doivent s'inquiéter parce que ça commence et eux aussi doivent présenter en virtuel leur cinéma. Alors, c'est une grosse question à se poser. Moi, je dois dire que j'ai fait quand même plusieurs visionnements et je dois dire que Image Nation ont vraiment développé une plateforme de visionnement qui était bien, qui était bonne, oui. À comparer à ce que j'ai vécu. Par exemple, j'ai fait le festival Juste pour rire en virtuel qui avait lieu, si tu te rappelles, au mois de juin.
Tout à fait.
Et c'était terrible, ça gelait tout le temps. J'en ai manqué des bouts, par moment.
Excuse-moi, ça dépend de l'équipe technique en arrière qui monte le système.
Oui, ça dépend de tout ça. Je pense que ça dépend de la fréquentation sur les internets, la bande passante.
La bande passante, oui. Donc, il faut monter les systèmes en fonction de ça. On s'attend à combien de personnes, ça? Il faut se poser toujours la question.
Il faut beaucoup de questions là-dessus.
Voilà.
Je l'ai vécu personnellement avec Fierté littéraire. Mm-hmm. La bonne nouvelle, c'est qu'on trichait un petit peu. Nos événements n'étaient pas en direct. On les préenregistrait. Et on les diffusait sur YouTube.
Là, c'est autre chose.
Oui, ça, c'est autre chose. J'avoue qu'on ne le disait pas sur le coup, mais oui, tout était préenregistré, parce que c'est très difficile de faire du direct lorsqu'on n'est pas une chaîne de télévision conventionnelle comme Radio-Canada ou TVA. Mais alors, maintenant, comment se sortir de ça? Parce qu'on est quand même au virtuel pour un bout. Alors, il y a une fatigue, il y a en même temps des problèmes techniques. Je n'ai pas de réponse là-dessus, mais c'est sûr que c'est inquiétant pour les parties en cause.
Comme elle l'expliquait, de toute façon, ça va être aussi les deux qui vont être là. C'est-à-dire que si on peut retourner en salle, ça va être et en salle et en virtuel,
et voilà.
D'après ce que j'ai entendu de l'entrevue.
Oui. Et ça, c'est l'avenir de beaucoup, beaucoup de festivals. Encore une fois, je peux parler par expérience, puisque, comme tu le sais, j'organise un festival littéraire et nous l'avons fait en virtuel. Et nous avons dépassé, nous, la fréquentation de notre festival en mois d'août. C'est étonnant, on est en plein été et les gens l'ont regardé. Maintenant, je crois que ce qui nous a aidé aussi, c'est que les gens l'ont regardé, peut-être, ils étaient une centaine lors de l'événement de la diffusion régionale, mais ils pouvaient le regarder par la suite. Et j'ai des événements qui sont rendus à 400, 450 visionnements. On n'a jamais eu autant de monde à fréquenter nos activités.
Et tu touches le monde entier.
Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on apprend du virtuel.
Oui.
Par exemple, ceux qui sont à mobilité réduite ou ceux qui, pour des raisons économiques, ne peuvent pas se présenter. Pensons à des mères de famille ou des pères de famille, pour ne pas être sexiste ici, qui ont la garde des enfants, qui n'ont peut-être pas les moyens de se déplacer pour aller voir un festival. Mais là, ils ont l'option de le regarder en ligne.
C'est la raison pour laquelle je pensais que c'était plutôt un plus qu'un moins.
Oui. Ben, maintenant, eux doivent se poser des questions sur qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'ils avaient quand même des budgets pour faire la promotion, beaucoup plus que bien des festivals Mais je sais que d'autres festivals, ça a fonctionné. En Fierté Montréal, ça a fonctionné. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'était une bonne idée. Pour d'autres, ben, comme eux, c'est peut-être pas la solution. Mais vivement, vivement, vivement de retourner voir des films en salle. Ah, ce que ça me manque.
Est-ce que toi, dans toutes les options dont tu t'occupes, tu aurais envie de continuer également? Si en admettant, on part du principe qu'on reprend une vie courante, c'est-à-dire qu'on peut aller voir en extérieur tout ce qui est à voir, est-ce que tu continuerais quand même à surfer un peu sur le virtuel?
Oui. Alors, moi, personnellement, comme organisateur, oui, parce qu'on a compris que beaucoup de gens qui ont regardé nos événements virtuels n'étaient pas des gens qui viendraient nous voir en présentiel. Et Fulgence, t'as raison. Et surtout dans le genre de festival que j'organise, qui est un festival littéraire LGBT, ben, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on se promène pas dans la rue avec un drapeau de la fierté. Hein, mais si on peut regarder quelque chose à partir de son
téléphone,
à la maison, oh, c'est déjà quelque chose. Et nous savons que nous avons de la francophonie qui nous regarde partout dans le monde.
On les aime.
Oui. Mais la pandémie a été la mère de beaucoup d'inventions.
Ça demande de la créativité, justement, pour se sortir de là.
Tu te rappelles, hein, quand j'avais dit, j'aimais pas l'expression « faut se réinventer », mais il y a quand même du vrai là-dedans. On a appris à faire les choses d'une autre façon.
On s'adapte.
Et de s'adapter. Mm-hmm. Et c'est clair que notre monde sera changé. On va le voir avec les festivals. Moi, ce que j'espère... En fait, l'autre chose qui m'inquiète beaucoup, c'est la production cinématographique qu'on a abordé pendant l'entrevue avec Charlie. Pour le moment, ça va. Les films, il y a encore des films qui étaient en production, qui ont été tournés en 2019 et juste avant la pandémie. Mais on va arriver à un moment donné où il n'y aura plus rien de tourné. Et c'est pas évident de tourner avec la distance. Ça ne fonctionne pas tout le temps.
C'est
on ne peut pas faire de mettre des scènes d'amour à 2 mètres de distance en passant. Ce n'est pas des enfants forts. Hein?
Pour l'instant, on est à 2 mètres de distance. Mais on partait du principe où une forme de vie normale reviendrait en plus de ça. Quoi.
Oui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qu'on va présenter au festival de 2022. 2021, on risque d'être correct encore pour les festivals de cinéma. Mais je me pose la question... pour ces festivals de cinéma qui vont devoir présenter des films en 2022, alors qu'on sait qu'un film, c'est quoi? C'est 1 an, 2 ans de production.
Oui.
Oh là là, ça va être difficile, hein?
Et puis
qu'est-ce qui aurait été produit, là? Parce qu'on ne produit pas beaucoup depuis le début de la pandémie. On fait des téléromans, on fait des courts-métrages, mais parce qu'il n'y a plus beaucoup de scènes d'amour qu'on peut faire maintenant. Là,
hein? Il faut trouver les producteurs, justement. Tu as dit le mot, c'est pas non plus évident. Ouais. Dans la nouvelle réalité d'aujourd'hui. Donc, sur le dernier instant qui nous reste, avant de finir l'entrevue, est-ce que tu as un message à nous faire passer là-dessus, une conclusion à toi?
Oui, conclusion à moi. Moi, j'ai horreur d'être moralisateur avec les gens. Je comprends qu'on en a assez du virtuel, mais je veux rappeler aux gens que c'est quand même, surtout les gens de la communauté de LGBTQIA, la communauté queer, on n'a pas beaucoup de monde qui raconte nos histoires. Alors, si on n'est pas là pour les regarder, ben à quoi bon les présenter? Alors, faut penser à ça. Je ne veux pas faire la morale aux gens. Je trouve ça dommage qu'on ait manqué ce festival pour certains ou pour plusieurs. Mais bon, peut-être aussi que les festivals ne dureront pas seulement que 2 semaines, mais on va pouvoir faire ça toute l'année.
On te le souhaite du fond du cœur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, regarde,
merci.
On va te quitter avec la chanson de Lamo Mali qui nous chante Solidarité. C'est le moment ou jamais.
Merci, oui. Denis Martin.
Au revoir,
merci,
Denis Martin.
Au revoir.
Bye.
Yeah, 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 la. Yeah, 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 la.
I don't love a new beat, I mean, I know the world. What to stand up for? How come he don't know like me? What the hell they fighting for? Not a man with the blame and his brother apart, but he do not know. You can't rule another's heart. You can't get a love alone.
J'ai ancré l'espérance aux racines de ma vie. Planté des flambeaux à la lisière des nuits.
Nafs al-shams tashru alayhi wa alayk. até sem querer. Faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver.
La grande vie nous a plongé dans sa cohue. Dehors y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus. Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté.
Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois.
Non, 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 non.
ही परम धर्म है इससे बड़ा ना कोई
à l'écoute, on vous revient juste après la petite pause publicitaire. Ah, c'était bien ça, hein, l'amour Mali, solidarité.
Oui, c'est beau comme tout cette chanson et puis c'est très représentatif de ce qu'il faut qu'on reste, on reste en lien, en solidarité, c'est voilà. Très important.
C'est ça. On vous revient.
Alors à tout de suite, restez avec nous.
Écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Tout ce qui est bon est pas permis. Tout ce qui est bon est interdit. Tout ce qui est bon, c'est malheureux. Et le malheur, c'est dangereux. Un Big Mac extra sauce, c'est dangereux. Une brésilienne, si elle est fausse, c'est dangereux. Trop de beurre sur ton pain, c'est pas bien du tout. Les choux de Bruxelles au vacherin, là, t'as vraiment pas de goût. Si elle est trop jeune et que t'es trop vieux, c'est pas permis. Du jambon dans le jambon, pas permis. Les yeux de la couenne dans le bouillon, c'est pas bien du tout. Manger la peau du saumon, là, faut vraiment être fou. Tout ce qui est bon n'est pas sage. Tout ce qui est bon fait des ravages. Tout ce qui est bon est pas permis. Tout ce qui est bon est interdit. Tout ce qui est bon, c'est malheureux. Et le malheur, c'est dangereux. Le saucisson, la tartiflette, le camembert. Le rouge, le blanc, la bière. Enfoncer son doigt dans un pudding, tremper deux fois ton brocoli dans la trempette, faire l'amour en gardant tes chaussettes. tout ce qui est bon est pas permis. Tout ce qui est bon est interdit. Tout ce qui est bon, c'est malheureux. Et le malheur, c'est dangereux. Faire un finger à un taxi, les doigts dans le nez dans le clafoutis. Lui dire au revoir dès que t'as joui, casser la gueule à tous les plus petits. Regarder les fesses de la blonde de ton meilleur ami. Un bain de soleil avec pas de burkini. Tout ce qui est bon n'est pas sage. Tout ce qui est bon fait des ravages. Ça fait du bien. Yeah. Regardez passer les lolos sur la plage. Regardez passer les moules aussi d'ailleurs. Faire de la moto sans son casque. Faire du porno sans mettre un masque. Péter au lit dans le lit de la meilleure amie de ta petite amie. Tout ce qui est bon n'est pas sage. Tout ce qui est bon fait des ravages. Tout ce qui est bon est pas permis. Tout ce qui est bon est interdit. Tout ce qui est bon, c'est...
Jamil. Tout ce qui est bon est interdit. Alors, vous avez vu la liste des choses dont il a fait allusion. Hein. Alors, comme je l'avais annoncé en début d'émission, je vais tout de suite attaquer cette partie de l'émission avec le mois de l'histoire des Noirs. Aujourd'hui, c'est le 1er février 2021. Bien sûr, ça commence comme ça. Et ça va aller jusqu'à la fin du mois de février. Il y a eu le lancement virtuel qui a été fait. Et tous les événements seront virtuels, bien évidemment. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on se déplace quelque part dans une salle. Non, 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 il n'en est pas question. Demain, je pense bien que c'est clair pour Michael Farkas, le président et porte-parole en même temps, le président du mois de l'histoire des Noirs. À 17h30, on va le recevoir ici pour nous parler de la programmation, de l'origine de l'histoire des Noirs. Et puis, parce que si je me mets à tout raconter maintenant... Demain, Michael, le président et porte-parole, c'est l'un des porte-parole, ils sont deux. Voilà, et ouais, deux porte-parole. Donc demain, pour qu'il ait de quoi raconter, à nous raconter à 17h. Voilà, mois de l'histoire des Noirs, c'est un événement annuel, hein, 30 ans, c'est la 30e édition, anniversaire. Trois décennies où le parcours et les réussites des communautés noires ont mis en lumière pour bâtir un pont vers l'autre. Voilà, c'est... Fabrice Ville et Michael Farkas, qui sont les deux fiers porte-parole cette année, ce février 2021. Voilà, demain on le recevra, Michael.
Super.
Il va parler de ça. Ok, Arlette, comme je disais en début d'émission, il y a un monsieur qui s'appelle Lionel Messi qui joue au Barça.
Mais oui, un génie.
Oui, un génie. Bon, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas su depuis 2017. Depuis novembre 2017, son contrat qui a été signé a été secrètement caché. Il y a El Mundo qui nous a sorti ça le dimanche, parce que le contrat finit fin juin là, 2021. Mmh.
Alors, laisse le dire, je répondrai après.
Oh, voilà, c'est du rififi là-bas à Barcelone, mais c'est fou. Voilà. Et 4 ans plus tard, El Mundo nous sort ça hier dimanche. L'information pourrait intéresser bien le Paris Saint-Germain qui s'intéresse à lui, parce que son contrat fini, le Paris Saint-Germain se dit tiens, on aimerait avoir Messi à côté de Neymar et Mbappé pour bousculer un peu, aller chercher une Coupe d'Europe. Mais c'est pas si...
Je pense pas que Barcelone le laisse partir, mais bon, on sait jamais.
L'année passée, en 2020, il a fait chanter un peu les grands dirigeants, c'est ce qui fait que, voilà. Mais il a 33 ans maintenant, il n'a pas 25 ans, il n'a pas 18 ans.
Ça reste un génie.
Ça reste un génie. Alors, il y a des gens qui vont dire, mais on lui donne combien, ce monsieur-là, par jour, oui, par semaine, par mois? Alors, quelque part, El Mundo, merci ce journal-là. Moi, je savais qu'il était très bien payé, mais je ne savais pas qu'il avait ce salaire. C'est 55 millions.
Mais oui.
555 millions.
Mais Fulgence, tant te répondre, autant qu'aux auditrices, aux auditeurs, ça a toujours été absolument affolant ce qu'on payait. Mais ce n'est pas Messi en tant que tel, parce que là, on le prend comme si on le crucifiait.
Non.
Mais ce n'est pas du tout ça. C'est parce que tous les footballeurs, les grands footballeurs, ont été payés des sommes astronomiques qui nous dégoûtaient quand on voyait tout cet
personne
argent passer.
Personne n'a atteint ce demi-milliard jusqu'à présent. C'est ce qui fait que...
Tu le refuses si on te l'offre?
Mais j'ai pas ces qualités. J'ai voilà. pas les qualités footballistiques. J'ai c'est... pas les qualités footballistiques de Messi.
De toute façon, dans la généralité, dans le football, les bons, les très bons, hein, je te parle des très bons, ils ont toujours été payés des sommes qui nous
ont... Oui, c'est 100 millions, 200 millions, 300 ouais. millions, mais 550 millions, un demi milliard, c'est beaucoup. C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Voilà, c'est beaucoup. Et quand on voit
il
ça...
Il attire du monde, tous les...
Oui, ça, on dit que c'est le côté marketing.
Mais, évidemment. Mais tout l'argent qu'on fait sur son dos... Je peux te dire que les enfants, les jeunes qui aiment le football, les jeunes garçons,
avec d'ailleurs, les maillots de Messi.
Je t'en parle même pas.
Ça me fait penser à Didier Drogba quand il était ici à Montréal. Ouais. Les maillots de Drogba. Alors là, ils sont furieux. Mais d'où vient la fuite? C'est ça le problème. S'ils ont pu cacher depuis 2017, pourquoi est-ce que c'est sorti hier, dimanche? Alors là, la direction de l'équipe est en colère. Ouais. Ils veulent poursuivre le journal qui leur a fourni ce topo, qui leur a dit que Messi a signé un contrat en 2017 pour un demi-milliard.
Des fuites, il y en a toujours.
Donc il en aura toujours. Il en aura toujours. Mais quand je vois Arlette, quand même, c'est beaucoup quand même. Ça lui fait combien là? Il a touché déjà les 82% du total de ce montant dont je viens de parler. Hein. Par jour, la brute, ça lui fait 380-299 euros
par jour. Dans la vie qu'on mène là tous les jours, quand il y a des boîtes qui se ferment, il y a des choses. On vit une époque qui est difficile financièrement. Quand on se permet de parler du salaire de quelqu'un, oui. on n'a qu'envie de le détester et de dire
non,
mais
non,
c'est
non,
une
non,
honte.
Non,
alors
non,
que
non.
c'est pas lui, il y en non, a des tas d'autres. C'est,
non,
là,
non,
c'est, le,
non, non, non.
c'est le monde footballistique
parce
qui est
que
comme ça.
Les gens sont en colère parce que le club a des problèmes financiers actuellement. Les gens se disent, oui, le club Barça a des problèmes financiers, les caisses sont vides.
Mais c'est pour ça qu'ils le payent autant, pour le remplir avec lui, parce que
mais
son nom soit
mais
là.
Mais est-ce qu'ils arrivent vraiment à le remplir? Parce qu'ils n'ont pas pris de coupe européenne ces dernières années. Hein. Les trois dernières années, là. Messi n'a pas, oui, au niveau de l'Espagne, oui, mais sur le plan européen, ça n'a pas vraiment rapporté assez d'argent. C'est ça la colère des gens qui supportent ce club-là.
Je comprends, mais je peux le comprendre. Hein.
Oui, non, moi je...
C'est pas lui en tant qu'individu,
moi, je ne suis pas un supporter du Barça, je suis un supporter du Real si je dois supporter une équipe espagnole.
Oui.
Bon, je ne sais pas s'ils ont ce problème financier, eux aussi. Quelqu'un m'a dit, ah tiens, on dirait qu'ils ont le même problème financier, mais eux, ils ne paient pas des joueurs à un demi-milliard.
Je ne suis pas Barcelone, mais...
Bon. Oh, voilà, le Real, on revient sur le Barça. Voilà, donc c'est quand même... c'est faramineux, c'est faramineux.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Oh, oui, c'est fou. Il dit tout. Il dit, c'est pas moi qui ai communiqué ça au journal El Mundo. C'est Barça, c'est Messi qui dit ça.
Bah
et
oui,
l'ancien
de sa part de l'avoir
c'est
fait.
Ça, de l'avoir fait. Là, le club veut poursuivre le journal pour simplement savoir qui est l'ancien président qui était là, qui a fait signer ce contrat. Il n'est plus là.
Ah oui.
Ça mélange tout. Est-ce qu'il va rester parce que son contrat est valable jusqu'à la fin du mois de juin 2021? Le Paris Saint-Germain, le PSG est intéressé. Et puis on se dit, quelle équipe qui va être capable de payer un demi-milliard à Messi pour qu'il puisse partir du Barça? Ou bien ils vont demander plus que ça. Peut-être le double.
Ou peut-être moins pour
en
partir.
Oui.
On ne sait pas. Ça, c'est des évaluations. On joue sur des... Pour l'instant, pour ce qu'il a fait, il a été payé cette somme-là maintenant.
Oui, depuis
comme
2017.
Comme tu l'as dit tout à l'heure, il arrive à 33 ans, donc c'est pas non plus...
Oui. Oui. Alors, on espère qu'ils vont trouver la personne qui a qui est à la base de la fuite de la bonne nouvelle pour le public et puis pour les médias, pour les supporters qui sont en colère. Et
on pas, ça sert à quoi maintenant que c'est fait?
Ils vont les poursuivre en justice. C'est là le but. C'est pourquoi ça a été gardé secret depuis 2017. Pourquoi est-ce que c'est à quelques mois de la fin de son contrat qu'on nous sort ça, quoi, c'est ça.
De toute façon, depuis des années, tu seras d'accord avec moi, c'est une honte ce qu'on peut payer le football pour les hommes. J'entends bien.
Non, ça m'énerve aussi, parce que le football féminin, les femmes, là, ne sont pas aussi payées que ça.
loin de là.
Oui, ça, ce côté-là, on va revenir.
On va en discuter là-dessus.
Il va falloir qu'on invite un jour aussi une femme qui est professionnelle de soccer ici.
Avec grand plaisir. Pour
en parler. Oui, effectivement. Voilà. On va en musique.
Allez,
on va écouter un instant. Il faut que je trouve le nom de ce monsieur que vient de me faire découvrir. Et il chante avec mon nom de famille. Écoutez-le, Philippe Catherine.
tu parles. Bla 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 tu parles bla 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 tu parles bla 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 tu parles tu meurs tu parles plus tu parles tu meurs tu parles plus tu parles tu meurs tu parles plus. Tu parles, tu meurs, tu parles plus. Tu parles, tu meurs, tu parles plus. Tu parles, tu meurs, tu parles plus. Bla 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 bla.
Blablabla. C'est mon nom de famille que ce Philippe Catherine utilise pour faire rire les gens. Bla. Et puis quand ça s'écrit comme mon nom de famille, BL à tout court.
C'est une expression qui date d'il y a très très longtemps, blablabla. Ce n'a hein, pas été créé.
Tu penses que je ne le dis pas aussi, ce blablabla?
Oui, bien sûr.
L'autodérision, bien sûr, c'est mon nom de famille. Sauf qu'il y a des gens qui me demandent comment on écrit ton nom de famille. Là, mais comment tu écris blablabla? BLA tout court. Il y a des gens qui vont l'écrire avec BLAH ou je ne sais quoi. Voilà, on va rester dans le milieu du foot, du soccer. Arlette,
oui.
Il y a le championnat d'Afrique des nations de football. Ça a commencé actuellement, il y a 4 équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales et il y a 2 qui vont se qualifier pour les finales.
Bravo.
Voilà, ça se passe au Cameroun. Hein. Voilà, j'en parlais hier avec mon voisin, il m'a dit, mais comment ça joue au football avec les gens dans les stades en Afrique? J'ai dit oui. Il dit, comment ça? J'ai dit, mais c'est pas le même... écosystème, c'est pas les mêmes degrés d'infection comme ici. Il y a des spectacles qui se passent dans des salles aussi, mais les gens, ils ont le masque, bien sûr, quand ils vont dans les salles pour voir les spectacles, quand ils vont au cinéma, bien tout sûr. Ça. Voilà. Donc, et je lui ai dit, attention, il y a eu des Ebola là-bas, il n'y a pas eu des Ebola ici. Il ne faut pas trop en vouloir aux Africains qu'ils en profitent maintenant. Là. Oui. Voilà, donc ça a commencé. Ils sont presque à la fin. La finale, c'est en fin de semaine. Demi-finale. Là, on est là maintenant. C'est le Cameroun qui va rencontrer... le Maroc.
Ah
oui, le Cameroun qui va rencontrer le Maroc. D'abord, il faut que je te donne les résultats des quarts de finale qui sont passés en fin de semaine. Là, j'ai vu les résultats, je me suis dit, je suis allé voir quelques buts là sur le web. Je me suis dit, waouh, le football africain évolue quand même. Hein. Voilà, c'était le Cameroun contre la République démocratique du Congo, 2-1. Et puis le Mali... voilà, qui sera aussi en demi-finale, et la Guinée aussi. Le Maroc a battu la Zambie 3-1. Oui. La Zambie, c'est un pays d'Afrique centrale. Oui. Le Maroc, c'est un pays du Maghreb. Oui. Et la Guinée qui a battu le Rwanda 1-0. C'est comme ça que ces 4 équipes se sont retrouvées en demi-finale.
Mais quand tu dis ça avance, ça s'améliore, moi, au contraire, j'ai le sentiment que toutes les grosses équipes d'Europe, s'ils n'ont pas quelqu'un qui vient du continent africain, tout pays confondu, c'est eux les as, les grandes jambes, les gens qui courent, qui savent, qui ont les plus grosses, comment dirais-je, les parmi les plus grands ont été quand même.
Je préfère te laisser dire. Je sais que tu aimes le football et
bah
tu
oui,
sais,
mais
tu
parce
suis.
Que...
Je préfère te laisser dire.
Je trouve que chaque fois on est allé les chercher un petit peu loin pour avoir une équipe qui fonctionne du feu de Dieu,
oui.
Si je puis dire. Donc voilà.
Oui, oui, oui. Non, c'est vrai. C'est... Non, j'ai préféré te laisser dire. Donc, demi-finale le 3 février à Douala, 16h, et puis à 20h à Limbé, dans une autre grande ville du Cameroun. Mais les Congolais sont très furieux parce qu'il y a eu un problème de positivité du coronavirus. Pourquoi? J'explique, Arlette. Ils ont attendu la veille du match pour déclarer plus d'une douzaine ou bien dizaine de joueurs de la RDC qui devait affronter le Cameroun, qui ouais. était positif.
Ah d'accord.
Alors, ils ont refait les examens, et le jour du match, ils se sont rendus compte qu'il y avait seulement deux qui étaient positifs. Donc ça, les gens ont dit, mais c'était une manière de les intimider ou bien quoi? Est-ce que ça a été un match arrangé? Est-ce qu'ils ont payé les arbitres? Est-ce qu'ils ont payé les
Attends savoir.
Voilà. Donc les Congolais sont actuellement furieux, les Congolais de la RDC.
Oui.
Et ils veulent tous supporter le Maroc pour que le Maroc
gagne
ce match de demi-finale pour que le Maroc se retrouve en finale, soit face à la Guinée ou bien au Mali.
Oui.
Bon, là, ils vont se bouffer les deux pays, là aussi. Ces deux pays voisins, Mali-Guinée, oui. ce sont pas des... Ils sont pas chami-chami, comme on le dit, quoi. Ce sont pas de grands amis, hein, sur le terrain, je veux dire.
Oui, oui, bah sur le terrain. Oui.
Voilà, ce sont pas de grands amis. Alors, ça va chauffer comme ça. Donc, pour le match, pour la troisième place, c'est le 6 février, bien sûr, à Douala, à 20h.
Oui.
C'est-à-dire celui qui va prendre la troisième position. Et puis ensuite, la finale, le 7, le dimanche. C'est bien ça? Oui, 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 le 7, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier. Hein.
Oui.
J'aime les mois qui commencent comme ça. On se trompe pas de date. Ah, ça a commencé les nids.
C'est vrai.
Voilà. À Yaoundé, ça doit être la finale. Alors moi, comme je vois, de toute façon, le Cameroun a toujours fait des surprises. Même si c'est chez eux à domicile, je pense pas que... C'est un avantage, oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément se qualifier. Le Maroc a actuellement le détenteur, l'équipe détentrice de la Coupe. Hein.
Ils sont bons.
Oui. Ils sont très bons. Et puis la plupart de ces joueurs de ces deux pays, même la plupart jouent, comme tu le dis, en Occident.
Ah bah oui, je te parlais du continent africain, c'était aussi bien au nord qu'au sud. Hein.
Oh, voilà.
Donc on sait où sont les talents,
oui.
même si on en a aussi chez nous, mais quand même. Quoi.
Oui, oui.
Il faut reconnaître quand on regarde le détail des équipes en Europe.
Mm-hmm. Oh, non, c'est vrai.
Souvent, voilà.
Mm-hmm. Donc là, je me suis dit, bon, ben, la demi-finale, bon, est-ce que je vais suivre ça vraiment? Mais j'attends la finale. Ah, je ne vais pas rater, quoi. Ça va être le 7. Je vais me mettre devant mon ordi, bien sûr.
La demi-finale, quand tu as une équipe qui te tient à cœur, c'est bon aussi de regarder si elle va arriver en finale. Ça commence à être pratiquement dès les quarts de finale, ça commence à être excitant, en tout cas je trouve, parce qu'on suit une ou deux équipes et dès qu'on les voit dans les starting blocks, on commence à prendre parti.
C'est ce qui fait que je n'en parlais pas jusqu'à présent. Je me suis dit, j'attends les quarts de finale et demi-finale pour en parler tout ça. Donc quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, tiens, je peux en parler maintenant. Et puis donc, de toute façon, j'ai pas d'équipe que je supporte là, que la meilleure équipe gagne. De toute façon, la Côte d'Ivoire n'est pas parmi les qualifiés, mon pays d'origine.
Oui.
Donc, je me suis dit que la meilleure équipe gagne.
D'accord.
Je suis fair play dans ce sens-là.
D'accord.
Alors là, mais ce qui m'a un peu surpris, c'est l'arrivée. Mais le Mali n'était pas en forme aussi au début du tournoi. Hein. Ils ont tâtonné un peu. Même le Rwanda, qui est arrivé là-bas en quart de finale. Les gens se sont dit, mais comment ils sont arrivés là? La Zambie.
Évidemment.
La Zambie qui a déjà battu la Côte d'Ivoire à l'époque.
Oui.
Oui, je me rappelle bien et je sais que ça va chauffer ce dimanche. Je ne vais pas rater, je vais tout faire.
Certainement.
Même si, avec le décalage d'oreille, il faut que je sois devant mon petit écran d'ordinateur. Là.
Voilà,
je
vais voir tout ça.
Je vais tout faire pour le brancher sur,
okay.
sur ma télé. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui aiment le football, le soccer en général,
oui.
qui veulent découvrir les talents africains qu'on ne voit pas ici souvent en Amérique du Nord,
oui.
on ne les voit que de l'autre côté les océans. Donc, profitez-en pour ces demi-finales et puis les finales, la finale qui arrive.
Entendu.
Voilà. On va aller en musique.
En musique ?
Avec qui ? Arlette, c'est moi qui le présente. Hein.
Oui.
Voilà, tout de suite, on va terminer en beauté avec... Non, je suis en train
Julien
de
Clerc.
Ah, je me suis trompé carrément de feuille. Ah, vas-y.
Julien Clerc qui nous chante « Ce n'est
Ce
rien ».
Ce n'est rien. Merci Arlette.
Ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe. Ce n'est rien. Tu sais bien. Elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient. Un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
C'était Julien Clerc, ce n'est rien. Ouais, je, ouais, mais... c'est ça, je savais plus s'il vivait encore.
Oh, bah, Julien Clerc a fait un dernier album en 2019, un album de duo. Oui, oui, il est toujours vivant, je te rassure. Ouais, parce que... Il chante, non, et il fait des albums.
Parce que je ne l'ai pas vu aux dernières émissions de télé que j'ai vues sur TF1.
Il n'est pas toujours invité partout. Mais
voilà, c'est ça aussi, oui.
Il a son public. Donc,
on a fait l'émission, Arlette.
Oui, bah, merci beaucoup à Denis Martin Chabot. Pour son entrevue,
merci.
Pour sa chronique.
Oui. Merci beaucoup, Denis Martin.
Et puis, merci Maurice Bolduc pour les musiques et puis pour nous avoir trouvé cette chanson de Philippe Catherine qui chantait Blablabla. Bla bla, donc, c'était drôle à entendre aussi.
Non, non, c'est drôle. C'est...
voilà.
Il est drôle. La deuxième pièce que je connais de lui aussi, elle est aussi drôle.
T'écouteras
mais
ses
tu m'as fait comprendre qu'il
sympa.
A des choses ouais. sérieuses
oui,
quand
oui.
même. Il ne fait pas seulement
oui.
que des. De...
Non, non, il fait des albums très, 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 très intéressants et très sympathiques.
Oui, oui.
Mais enfin,
temps
temps. Moi, je trouve. Hein,
oui, oui.
J'aime bien ce chanteur.
Non, non, je vais chercher beaucoup plus, aller creuser un peu plus pour découvrir
les
trucs.
Merci pour m'avoir permis de parler un peu de foot. Oui, en tout cas.
Oui, au moins, la semaine prochaine, on revient là-dessus pour parler des demi-finales et puis de la finale.
Et puis, oui. Puis pour, tu nous l'as dit, l'édition de Mois des Noirs, tu as invité quelqu'un pour demain. Donc, on garde ça au chaud
le
pour
président,
demain.
Voilà, le président, il est en même temps porte-parole, deuxième porte-parole demain.
Bah, c'est parfait.
À 17 ans, il va nous parler un peu de l'événement qui va durer un mois. Voilà.
Donc, on va en savoir un petit peu plus.
Un peu plus, puis, là-dessus, voilà.
On parlera aussi de virtuel avec lui.
Ah oui,
puisque tout c'est le sujet du jour en ce moment.
Le sujet de deux années, 2020-2021, ça va continuer. Arlette, on se voit demain.
On croise les doigts. Oui. Allez, à demain, Fulgence.
Ouais, à, demain.
À demain, à vous toutes et vous tous. Merci, Maurice Bolduc, pour les
musiques.
Prenez
toujours
et
soin
puis,
de vous. Voilà. Merci, Maurice. Et puis, à demain.
Demain, mardi. Mmh. Même heure, même endroit.
Ouais. Ciao.
Au revoir. Mmh.